Bien, bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer mon exposé d'aujourd'hui, je tenais quand même à remercier Mme Clément pour son invitation, également le professeur Nathan, avec qui j'ai le privilège de travailler. Voilà. Donc, avant de commencer mon exposé effectivement sur l'homosexualité et le sida, vaste sujet, je voulais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire qui raconte que lorsque le philosophe Michel Foucault apprend en fait en 1981 l'information selon laquelle un nouveau mal apparaît, un mal que l'on commence à nommer le cancer gay, celui-ci aurait trouvé l'information tellement drôle qu'il aurait éclaté de rire. Il se serait esclaffé en disant, vous pouvez le lire, un cancer qui toucherait exclusivement les homosexuels, non, ce serait trop beau pour être vrai, c'est à mourir de rire. Une telle maladie, dans le contexte des années 80, du début des années 80, pouvait paraître quelque peu ironique. C'est vrai qu'à ce moment-là, les luttes identitaires menées durant les années 60 et 70 ont produit des effets notables sur le plan sociétal, et la population homosexuelle commence à acquérir une certaine légitimité, je dirais. Donc, l'apparition de cette maladie était susceptible de ralentir, je dirais, le processus d'assimilation de la question homosexuelle par la société en provoquant de nouvelles formes de stigmatisation. Donc, la réaction de Michel Foucault est révélatrice, je dirais, d'une certaine posture française lors de l'émergence de cette nouvelle pathologie. Cette posture mêlera à la fois de la défiance, du déni et de la sidération. Dans un premier temps, donc, on le voit, Foucault il ne porte pas crédit à l'information qui lui est donnée. Il pense même qu'il y voit même l'expression d'un certain puritanisme américain. Mais pourtant, on le sait maintenant, à ce moment-là, il était déjà porteur du virus qui lui coûtera la vie trois ans plus tard. À travers ce petit préambule, il est possible, je pense, de tracer là, quelques-unes des lignes qui vont former le corps même de mon exposé aujourd'hui. Bon, chacun le sait, le sida ne se réduit pas à l'homosexualité, mais au tout début de la pandémie, la communauté homosexuelle est quand même celle qui a été, je dirais, le plus exposée. Et ce qui a totalement bouleversé l'agencement de ce groupe qui commençait à bénéficier d'une certaine visibilité au sein de la société. C'est toute la société française qui, et l'ensemble de ses savoirs qui vont être fragilisés. En effet, cette maladie apparaît à un moment où la médecine est quand même, et les laboratoires pharmaceutiques apparaissent comme étant pratiquement tout puissants. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'espérance de vie ne cesse de croître. On vit effectivement de plus en plus longtemps avec des maladies graves. On peut dire que les médecins avaient le pouvoir de guérison. On était entré dans l'ère des maladies chroniques. Mais la survenue du sida va totalement mettre à mal ce bel ordonnancement du monde, je dirais. La virulence de l'apparition du sida, son caractère contagieux, va prendre de court le monde médical, qui se montre alors incapable d'apporter une quelconque réponse pour venir aux malades. En fait, on a l'impression que la société est totalement bloquée parce que rien ne fonctionne plus, car la médecine ne sait pas ou ne peut pas agir. Il est nécessaire d'insister sur le fait que l'apparition du sida a conduit notre société dans une forme d'état d'urgence où la construction de solutions pratiques et concrètes devenait indispensable pour tenter de prendre en charge dignement les malades. Le sida se présente alors comme un véritable fléau social, pour lequel il va être nécessaire de tenter de trouver des réponses à nombreuses questions. Par exemple, comment faire pour lutter contre les préjugés ou encore, comment traiter la question de l'ignorance sexuelle ou celle de la contamination, etc. Aussi, en se présentant à la fois comme une maladie physique et une maladie sociale, le sida abolissait en quelque sorte les catégories et était susceptible d'amener différents secteurs à se rencontrer, voire à élaborer des stratégies de lutte ensemble. Le sida va donc mettre sur le devant de la scène sociale le malade et sa maladie. Et il me semble que le geste primordial qui peut permettre de distinguer le sida des autres fléaux, c'est le refus du statu quo. C'est-à-dire que face au sida, des individus ont trouvé le courage de refuser la situation inacceptable dans laquelle ils se trouvaient et sans issue, et ils se sont donc organisés pour agir et lutter de toutes leurs forces. À travers le sida, en France, et je me tiendrai à la France pour m'en exposer, le sida a conduit à une mobilisation collective par le biais de nombreuses associations qui peuvent être considérées comme un secteur d'action publique. Ces associations, on va le voir, vont mettre en cause ou à l'épreuve les pouvoirs politiques, médicaux, scientifiques, administratifs, etc. Et des victimes, des proches, prennent la parole, elles adressent leurs critiques à tous les pouvoirs, elles le font dans l'espace public. Selon nous, selon moi, ce temps, je dirais, de redistribution des formes du pouvoir impliquées dans la prise en charge de la maladie constitue un mouvement historique de révolte, de combat, qui a été à l'origine, je dirais, de bouleversements tant sur le plan politique que sur celui de la médecine et ou encore au niveau de l'identité homosexuelle elle-même. Il est indéniable aujourd'hui que la lutte contre le sida a joué à plein dans de nombreux espaces sociaux, par exemple la santé des prisonniers ou encore les droits des couples homosexuels. La pandémie à VIH est effectivement un événement total. Cependant, il me semble que cela soit plutôt minoré aujourd'hui, minoré en tant que possible élément d'appréhension du monde. Selon moi, la mémoire peut paraître quelque peu défaillante à cet endroit. Aussi, je vous propose aujourd'hui un petit travail de mémoire, car il me semble que les générations les plus récentes ne sont pas totalement au fait de cette histoire, pourtant pas si éloignée que cela. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement la résurgence de la prévention du sida lors du dernier SIDAction du mois d'avril. Ça fait écho en fait à un fait qui ne semble pas tarir au fil du temps. La contamination, notamment au sein de la population homosexuelle, reste stable mais est toujours trop élevée au regard des connaissances qui ont été acquises depuis plus de 30 ans sur le sujet. Alors, la question du contexte est une question, à mon sens, importante. C'est-à-dire que la survenue du sida apparaît à une période singulière, un moment de transition pour la cause homosexuelle. À la fin des années 70, les associations de lutte identitaire ont le sentiment qu'une vague de changement est sur le point d'advenir. Durant les années 70, plusieurs associations ont lutté avec acharnement, non pas pour obtenir des droits véritables, je dirais, mais une simple reconnaissance de leur identité et la fin du caractère illégal de leur conduite. Il est possible de citer, peut-être certains s'en souviennent, du phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire de Guy Hockenheim, ou encore le GLH, le groupe de libération homosexuelle, qui prônait alors des idées et des principes directement issus de mai 68, revendiquant à la fois la libération sexuelle et la fin des discriminations envers cette population. Il ne faut quand même pas oublier, petite anecdote, que l'homosexualité à ce moment-là est toujours un délit et qu'il existe encore au sein de la brigade des stupéfiants et du proxénétisme de la préfecture de police un groupe spécialisé dans le contrôle des établissements fréquentés par les homosexuels et dans l'interpellation de ces derniers sur les lieux de rencontre. Aussi, vous le voyez, l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 81 va avoir de grandes conséquences au niveau de la condition homosexuelle elle-même. Il faut dire que la victoire de Mitterrand va rapidement déboucher, je dirais, sur la satisfaction des principales revendications des mouvements identitaires homosexuels issus de mai 68. Alors, on peut le voir, disons que à ce moment-là, il y a le journal de référence de l'époque, le journal homosexuel Guépier, qui a été créé en 79, si mes souvenirs sont bons. Il titre à la une « 7 ans de bonheur » sous la forme interrogative, avec cette petite assertion « l'homosexualité doit cesser d'être un délit ». Cette assertion, on l'attribue à François Mitterrand lui-même, qui, dès le début de sa campagne, avait mis en avant le fait qu'il ne transigerait pas avec la question des discriminations homosexuelles. Très rapidement, il va donc mettre en place, le nouveau pouvoir va mettre en place un certain nombre de mesures. Elles sont notées sur la diapo. Là, le 12 juin 1981, l'État français ne prend plus en compte la classification de l'OMS, qui fait de l'homosexualité une maladie mentale, pardon. Du mal à le dire. Et une autre démarche également engagée notamment par Banater et puis Gisèle Halimi, c'était l'abrogation de l'alinéa 2 de l'article 331 du Code pénal qui interdisait aux homosexuels d'avoir des relations entre eux avant 18 ans, alors que la majorité hétérosexuelle était alors à 15 ans. Donc par souci d'égalité, voilà, une bataille ardue va être menée notamment par le garde des Sceaux, donc par Robert Badinter. Et il va faire un grand discours dans lequel il va amener une véritable parole de reconnaissance à la population homosexuelle. Il déclare « Il est grand temps de dire ce que la France doit aux homosexuels dans tant de domaines. » Ce plaidoyer de Badinter face à l'Assemblée aura quand même une grande portée. Ainsi, dès que la législation relative à l'homosexualité a été bouleversée, les associations de lutte identitaire vont quelque peu se déliter. C'est-à-dire que les combats menés dans les décennies précédentes semblent avoir porté leurs fruits et un grand nombre de militants vont se détourner de cet engagement. Ils se trouvent un peu libérés du poids de la stigmatisation et donc ils vont s'inscrire dans une vie communautaire basée sur la convivialité, sur la libération des mœurs, sur l'élaboration d'un mode de vie, voire d'une subculture. Faute de thème de mobilisation, un certain militantisme homosexuel tend à disparaître. Il y a un sociologue, Frédéric Martel, qui a écrit un beau livre, là, Le Rose et le Noir, qui explique « Le ghetto commercial va récupérer la place laissée vacante par le départ du militant ». Par le départ des militants. C'est-à-dire qu'un véritable réseau gay va se créer. On va avoir des lieux de rencontre, des lieux de fête, des petites associations proposant des différents loisirs, activités culturelles. Et pour aller encore plus loin, Frédéric Martel explique que la communauté apparaît non pas comme reflet d'une minorité gay identitaire ou politique, mais comme simple communauté de désir. Et cette évolution est au fond essentielle, je dirais, car elle va permettre à la communauté homosexuelle de s'extraire de la marge et de devenir une réalité concrète, puisqu'elle va s'inscrire dans l'économie de marché. C'est donc dans ce contexte très singulier où la population homosexuelle éprouve enfin un sentiment de liberté qu'elle fait dans une certaine insouciance que le sida va apparaître. Les premiers cas de sida sont évoqués précisément le 5 juin 1981 dans la revue de l'Agence épidémiologique américaine. Willy Reisenbaum, qui est médecin à l'hôpital Claude Bernard à Paris, prend connaissance de ce mal étrange et rapidement il va retrouver certains symptômes d'écrit chez l'un de ses patients qui a séjourné longuement aux USA et qui est homosexuel. Alors, malgré le scepticisme de ses collègues, il met en avant la ressemblance entre son malade et les cas notifiés aux USA, et le cancer gay est diagnostiqué pour la première fois fin 1981. Alors à ce moment-là, le monde médical ne dispose d'aucune explication quant à cette nouvelle pathologie, mais dans un premier temps, on observe juste le fait que ces nouveaux malades sont tous homosexuels. Donc il va se poser la question de savoir s'il est nécessaire d'informer cette communauté et de quelle manière il faut procéder. Alors, il y a plein d'hypothèses saugrenues qui sont évoquées pour tenter de donner un sens à cette nouvelle pathologie, et celles-ci sont toutes en lien avec les conduites sexuelles que l'on attribue aux homosexuels, c'est-à-dire à une sexualité, je dirais, quelque peu fantasmée, que l'on pense alors comme étant débridée, sans limite, impliquant nécessairement un multipartenariat. Je ne sais pas, peut-être que certains se souviennent également, il y avait cette hypothèse qui avait été formulée disant que ça venait du poppers, le poppers qui était un solvant, le nitrate d'amyle, voilà, qui était utilisé dans la communauté gay américaine notamment. Au niveau de la presse homosexuelle, la première information au sujet du sida apparaît en septembre 81, mais le premier commentaire, je dirais, journalistique, apparaît, lui, en janvier 82, par un médecin de l'AMG. L'AMG, c'était l'association des médecins gays, pardon, qui est une association communautaire qui avait été créée en mai 81, précisément. Donc ce médecin livre un article où il s'interroge au sujet de ce cancer gay. Il explique « Ne sommes-nous pas, une fois de plus, victimes de ce puritanisme qui nous colle aux chromosomes et dont les gays américains ne sont pas arrivés à se départir ?» Bon, on voit tout de suite poindre, on dirait, la crainte, hein, de la crainte de la stigmatisation. Après des années de lutte, je dirais, et de victoires notables, la population homosexuelle craint en quelque sorte de réintégrer la liste des fléaux sociaux qu'elle vient à peine de s'extraire. Donc la presse homosexuelle a quand même nettement tendance à minimiser la situation. Elle explique qu'il n'y a pas plus de risque de trouver la mort en traversant la rue qu'en faisant l'amour. Et elle incite clairement ses lecteurs à continuer à vivre une sexualité épanouie. De leur côté, l'AMG, l'Association des médecins gays, adopte également une position plutôt attentiste. Il y a un premier groupe de travail qui a été organisé c'était avril 82, par Willy Rosenbaum et Jacques Lebovitch, afin de donner l'alerte auprès de la communauté gay, mais également dans le but d'obtenir des informations. C'est-à-dire que ces médecins connaissent peu les sexualités homosexuelles, ni les modes de vie, d'accord, de cette communauté, et il aurait donc nécessaire de s'entretenir avec les représentants afin d'obtenir des informations sur ces sujets et d'être davantage en mesure de penser cette nouvelle pathologie. Donc le colloque ne sera finalement pas satisfaisant dans le sens où l'AMG poursuivra alors uniquement des objectifs visant à minimiser le risque évoqué par les médecins et à faire en sorte de dissocier totalement la nouvelle pathologie des modes de vie attribués aux homosexuels. Bon, il faut dire que fin 82, le sida est encore un épiphénomène, quoi. C'est-à-dire qu'on a 27 cas signalés en France, ce qui est quand même assez restreint. Et le virus du sida est isolé par le professeur Montagnier en mai 83. Donc son caractère viral va nécessairement appliquer un nouveau regard de la part de la population. Pour autant, ça ne change rien. La presse continue à relativiser cette question. Bon, la plupart des journalistes de ces journaux, je dirais, étaient eux-mêmes d'anciens militants de la cause homosexuelle. Il leur était difficile, on va dire, de voir s'évanouir aussi rapidement le monde qu'ils avaient contribué à construire pendant de longues années. Et un ancien journaliste, j'ai retrouvé un témoignage d'un ancien journaliste de Guépier qui témoigne justement de ses regrets en tentant d'analyser sa posture. Il explique « On ne croyait pas une seule seconde au sida. On ne nous tenait plus par la morale, plus par l'Église, plus par la justice. Nous nous sommes dit qu'il fallait bien qu'ils inventent un virus. Le sida, c'était des petits hommes verts venus punir les homosexuels au moment où les lois ne les réprimaient plus. Ce n'était pas possible. » Le déni des représentants de la communauté homosexuelle durant cette période est également lié, je dirais, à une profonde méfiance envers le monde médical. En effet, le sida semble être arrivé à un moment précis où le dialogue entre les médecins et les homosexuels est rompu. Les gays de cette période ont vraiment une vision très répressive de la médecine. Un certain nombre d'entre eux, durant par exemple leur adolescence, ont pu rencontrer des psychiatres, d'accord ? La maladie, l'homosexualité étant considérée comme une maladie mentale. Alors du coup, l'approche par la médecine du monde homosexuel n'était pas véritablement considérée par ce dernier comme étant crédible. On se souvient par exemple, à titre d'anecdote, du groupe d'extrême gauche, le Phare, qui avait une grande crainte de toute médicalisation de la cause homosexuelle
et qui s'est traduisait à travers son célèbre slogan « Toubib, soigne-toi toi-même ». Donc, cette posture de la presse homosexuelle, je dirais, lui a été reprochée par la population elle-même et notamment par les premiers malades. Et ça se faisait par le biais du courrier des lecteurs. Il y a dans un exemplaire de Guépier, le 17 novembre 1984, il y a une lettre d'un lecteur qui s'en prend violemment au rédacteur en chef, Franck Arnal. Il accuse ce dernier de ne pas prendre la mesure de la situation en précisant que le sida touche alors 3 à 4 nouveaux patients par semaine et que ceux-ci se trouvent être tous homosexuels. Je le cite. « Arrêtez le délire paranoïaque dès qu'on vous parle du sida. C'est une maladie qui nous menace réellement dans nos corps, mais aussi dans nos modes de vie. Face aux faits, tu sembles, avec ton journal, osciller entre la démarche de l'autruche et l'alarmisme moralisant. » Aussi, ce lecteur de Guépier conclut son courrier en indiquant qu'il a décidé de s'inscrire dans l'activisme gay afin, dit-il, que puisse s'affirmer une véritable chaîne de solidarité. À ce moment-là, on voit donc un nouveau mouvement qui s'amorce. C'est un mouvement visé simplement à lutter contre le sida. Le mouvement homosexuel va se recomposer sur de nouvelles bases et on va voir apparaître de nouveaux acteurs dans le champ de l'activisme gay. Alors, le décès de Michel Foucault, c'est un événement, je dirais presque un événement fondateur d'une nouvelle forme d'action militante. J'imagine que tout le monde le sait, Michel Foucault est mort du sida le 25 juin 1984. Mais les circonstances qui entourent sa mort ont fait l'objet de plusieurs récits et même ont produit une remise en cause de sa posture, la posture qu'il a adoptée durant cette période tragique de son existence. Foucault, il prend réellement conscience de l'ampleur de la tragédie qui se profile au niveau international au cours de l'année 82, mais à ce moment-là, on ne sait rien sur la maladie ni sur comment elle se transmet. Et il déplore les campagnes qui se développent alors aux USA contre la liberté sexuelle, craignant de nouvelles législations répressives. De son côté, le concernant, les premiers signes de la maladie apparaissent de manière insidieuse, mais le philosophe sera emporté de manière très brutale par la maladie, 8 à 9 mois seulement après l'apparition des signes tangibles de la maladie. À la fin de l'année 83, Foucault est totalement épuisé, il commence à développer une forme de pneumopathie qui le fait beaucoup souffrir, il est exténué par les quintes de toux, par la fièvre. Mais des doses importantes d'antibiotiques vont lui redonner un peu d'énergie. Parce qu'il a un objectif précis, c'est-à-dire que lui, il veut absolument continuer à rédiger son œuvre du moment, à savoir l'histoire de la sexualité. Et il semblerait effectivement que cette détermination à mener à terme son projet et décupler ses forces, mais également déterminer la position de son médecin vis-à-vis de la maladie. Il y a une belle autobiographie de Foucault là, qui est rédigée par Didier Ribon. Et cet auteur explique que le médecin de Foucault lui aurait tenu un discours diffus car celui-ci aurait compris qu'il ne voulait pas que soit formalisé un diagnostic, l'urgence étant de lui laisser du temps pour finir d'écrire son œuvre. Alors pour autant, il y a d'autres témoignages qui viennent un petit peu en contradiction, qui expliquent que Foucault avait bien évidemment déchiffré le discours de son médecin, était totalement conscient de la nature de sa maladie. Pourtant, il y a une chose qui est établie, c'est qu'il cachera totalement cette information à son entourage, et plus particulièrement à son compagnon d'alors, Daniel Defer. Et ce dernier témoigne du fait qu'il n'était pas au courant de la gravité, ni de la nature du mal dont souffrait le philosophe. Il explique, Daniel Defer, qu'il est allé trouver le médecin de son compagnon en lui demandant ce qu'il en était et que ce praticien lui aurait répondu « Mais s'il avait le sida, monsieur, je vous aurais examiné. » Donc on se trouve là face à une espèce d'ambiguïté de la position de Foucault et de celle du monde médical, mais cette ambiguïté va être déterminante dans l'action que Daniel Defer va mener à travers la création d'une association qui me servira d'exemple. Il y en a eu plein d'autres, mais je vais me tenir à celle-ci. L'association AIDE. Alors, Très rapidement, après le décès de Michel Foucault, Daniel Defer va commencer à réfléchir à la mise en place d'une action en lien avec la question de la lutte contre le sida. Defer initie ce mouvement à partir de ce qu'il estime être une faillite du monde médical, à savoir la communication du diagnostic aux malades et la manière d'accompagner les malades vers la mort. Pour Defer, les liens sociaux sont altérés ou sont susceptibles de l'être avec l'apparition du sida. Il est nécessaire de lutter afin que les malades puissent conserver une place au sein de la société. D'accord ? Et donc il envisage d'introduire notamment une réflexion sur la pratique médicale. Il y a une lettre qui est assez connue, c'est la lettre du 25 septembre 1984, que Defer adresse à certains proches de Foucault, mais également des journalistes de la presse gay. Et il donne quelques éléments qui permettent d'appréhender la vision qu'il a de l'entreprise qu'il souhaite mettre en œuvre. Il explique « Je dis que le sida est un problème culturel, donc il a des aspects psychologiques, matériels et légaux. Il faut les aborder de front. C'est mieux que la panique et la moralisation face à une urgence médicale certaine et une crise d'identité. Je propose donc un lieu de réflexion, de solidarité et de transformation. Voulons-nous le créer ?» Defer souhaite donc créer une instance s'articulant autour de trois axes principaux, la réflexion, la solidarité et la nécessaire transformation des rapports sociaux engendrés par l'apparition du sida. Je peux dire que là, on peut établir en fait une filiation assez directe avec les principes qui avaient présidé à la création des fameux GIP, les groupes information prison, que Defer, justement, et Foucault avaient créé dans les années 70. S'inscrivait dans une démarche de combat contre les discriminations politiques et sociales. Le mouvement était basé sur le principe de confrontation d'un problème de société localisé, je dirais, à savoir la prison. Donc cette confrontation à des spécialistes, avocats, médecins, personnel pénitentiaire, et des non-spécialistes, prisonniers, familles de prisonniers. Et cette confrontation devait permettre d'ouvrir un espace de réflexion où, comme le dit Defer, les spécialistes n'auraient pas la direction de pensée. Donc c'est à partir de ces principes que Defer souhaite mettre en place un mouvement où il va mettre, enfin lui et les autres, hein, mettre les malades au centre des préoccupations. Il veut construire un espace d'alliance entre les malades et tous ceux qui se sentent concernés par la maladie. Le réseau de solidarité qu'il souhaite mettre en place à travers cette association devra conduire à une nouvelle donne identitaire pour la population homosexuelle, notamment, selon Defer, pour l'institutionnalisation de notre rapport à la maladie, à l'invalidité et à la mort. Il y a une réunion qui se tient le 30 octobre 1984, à laquelle participent différents proches de Defer, notamment deux médecins, Frédéric Edelman et Jean-Florian Mététal, qui par la suite créeront Arcade Sida. Et au cours de cette rencontre, un premier projet de statut est discuté. Donc simplement, il ressort que l'association aurait pour vocation d'assurer une médiation entre les institutions officielles, les homosexuels malades du sida, et leurs proches et la communauté gay. Il y aurait également des formes opérationnelles d'aide à fournir aux malades. Deuxième point, également, aide s'attachera à la réflexion préventive de la communauté gay. Et enfin, elle s'organisera afin de soutenir la recherche. Comme on peut le voir, je dirais que aide a donc l'ambition d'intervenir comme médiateur entre le médecin, le malade et ses proches. Les rapports sociaux, je dirais, qui se construiront sur cette fonction de médiation devraient servir d'appui pour tenter de modifier le comportement des médecins, des équipes soignantes et des malades eux-mêmes. Et ça se concrétisera à partir de la mise en place de différents groupes d'action relatifs aux objectifs de travail fixés. Groupe d'aide aux malades, groupe d'information et communication, groupe financement, groupe loi et société. Donc, on le voit, aide va s'engager dans différentes voies qui vont se concrétiser à partir d'actions ciblées. D'accord ? L'un des points nodaux, il me semble, du rôle de l'association se situe dans la mise en place de solutions concrètes pour venir en aide aux malades. C'est dans cette optique que AIDE va s'engager sur le terrain juridique et social dans différentes sphères, au travail, à l'hôpital, en prison, et va proposer un soutien direct aux malades, aide matérielle, accueil dans des appartements relais, par exemple. AIDE va se battre sur différents fronts, je veux dire, au coup par coup. Autre exemple, je veux dire, elle va réclamer la vente libre de seringues pour les toxicomanes, la levée de l'interdit de la publicité pour les préservatifs, ou encore tirer la sonnette d'alarme à propos des dons du sang en 85. Donc, dans un premier temps, l'association n'est pas très bien accueillie par la communauté homosexuelle qui conserve certaines résistances vis-à-vis de la question du sida. Mais la situation va progressivement évoluer. Il y a toujours pareil, Guépier, il y a en novembre 85, il y a un préservatif qui est encarté dans le journal grâce à un financement de AIDE. Et donc là, on voit un mouvement, on commence à réaliser l'ampleur de la situation. Bon, il faut dire que le test de dépistage du virus du sida date de 1985 et donc apporte davantage de visibilité à la situation. Alors, l'inertie des pouvoirs publics. Bon, comme vous pouvez vous en rendre compte, l'association s'est un peu, quelque peu substituée à l'action des pouvoirs publics. C'est-à-dire, ceux-ci se montrent plutôt passifs et ne saisissent pas du tout de cette question. AIDE, par exemple, interpelle les pouvoirs publics dès 1985. Sans résultat, il demande une demande de subvention au cabinet du ministre de l'alors, M. Laurent Fabius. Bon, cette demande est refusée. Également, ils essaient d'œuvrer pour la loi contre la publicité des préservatifs soit abrogée, mais c'est pareil, ils ne rencontrent pas davantage de succès. Ce qu'il faut préciser quand même, c'est que la France se situe à l'avant-dernière place dans la chronologie des campagnes gouvernementales d'information au sujet du sida au sein de la communauté européenne. On est un petit peu les derniers, quoi. Il faudra effectivement attendre 1987 et la loi Barzac pour commencer à prendre certaines mesures et enfin statuer sur la fameuse autorisation de publicité pour les préservatifs et faire des publicités un peu d'envergure comme celle que vous voyez. Le sida ne passera pas par moi. De manière rapide, je n'ai pas vraiment le temps d'aller plus loin sur la question politique. Je veux dire, il y a beaucoup d'auteurs qui expliquent cette posture en mettant en avant un véritable manque de courage politique de la part du gouvernement en place, dans le sens où le sida apparaissait alors comme étant lié à l'homosexualité et que les instances gouvernementales, dans un souci de respectabilité et certainement d'efficacité électorale, a préféré occulter la réalité de l'époque. J'ai trouvé un témoignage d'une ministre du gouvernement Fabius, Huguette Bouchardot, qui explique alors. Elle dit « Il y a eu la conjonction de cette volonté de gauche qui se refusait à assimiler le sida aux homosexuels et de ce refus d'entreprendre toute action qui pouvait gêner. La gauche avait désormais peur de faire peur. En un mot, la peur de la stigmatisation a inhibé toute pensée et action du gouvernement en place. » Cette posture gouvernementale a laissé le champ libre, je dirais, à l'expression d'opinions pour le moins virulentes à l'égard de la population homosexuelle. Alors, la violence des propos tenus par certains éditorialistes ou certains hommes politiques peut paraître aujourd'hui quelque peu outrancière, mais celles-ci, je veux dire, ont vraiment occupé le champ politico-médiatique durant la deuxième moitié des années 80. Peut-être certains d'entre vous se souviennent des articles de Louis Pauwels, éditorialiste au Figaro, qui voyait à travers l'apparition du sida la métaphore de la déliquescence et de l'iniquité d'une génération tout entière. Il avait cette diatribe autour du sida mental qui toucherait en fait la génération issue des années Mitterrand. Alors, Monsieur Le Pen et le Front National se sont saisis de cette question avec toute la mesure que nous leur connaissons, si je puis dire. C'est-à-dire que lors d'un passage dans une émission de télévision en 87, c'était l'heure de vérité. Le Pen, met en avant le fait que le malade serait terriblement contagieux. On ne sait pas d'où il tient ses sources. Hein. Et que le décrit comme un lépreux moderne. Il avance que le malade est contagieux à partir de sa salive, à partir de sa transpiration, de ses larmes, etc. Et donc, il explique que dans le but de protéger la société des bien portants, il propose l'idée de créer des citatoriums afin de parquer les malades qu'il nomme des sidaïques. Je ne sais pas à quoi il faisait référence, mais bon. Par ailleurs, il réclame le dépistage systématique des populations dites à risque et, bien évidemment, des ressortissants étrangers. Alors, la prise de position de Le Pen avait été amorcée par l'un de ses camarades, on va dire, le docteur Bachelot, qui était un fidèle collaborateur à lui, qui est un médecin, qui avait sorti un bouquin en 88, qui a fait date quand même, hein, et qui a eu une certaine audience, qui s'appelait « Une société au risque du sida ». Bachelot, que l'on voit avec lui, là, sur la photo, écrira « Le sida a ruiné les fantasmes sexuels des 68 ans attardés. Les sodomites distingués ricanaient de l'anarchisme des demeurés qui, eux, continuaient à faire l'amour par les voies naturelles et qui plus est, avec une seule partenaire, une femme. Beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, sur leur lit de mort, doivent méditer. » Alors, en quelque sorte, on peut dire que ça y est, la revanche est là, quoi, et que la crainte des militants gays, qui était quasi obsessionnelle au début des années 80, au début de l'épidémie, trouve sa confirmation. La stigmatisation est de retour et appelle à la lutte. Alors évidemment, vous pourrez me dire que ces exemples sont très circonscrits sur le plan politique, mais ils ont eu vraiment une vraie audience au sein de la société, et il ne faut pas oublier que la peur du sida a paralysé la société à de nombreux niveaux. On peut citer par exemple les pompes funèbres, d'accord, les entreprises qui refusaient de prodiguer leurs soins aux malades, aux morts du sida, pardon, ou encore les plateaux repas qui étaient abandonnés au pas de la porte de l'hôpital. Petite anecdote en passant, tout le monde a certainement entendu parler de Rock Hudson, cet acteur américain qui est mort donc, du sida dans les années 80. Il était venu à Paris en 85 pour tenter de bénéficier d'un traitement expérimental, et la compagnie aérienne qui avait assuré son transport avait exigé la désinfection complète de l'appareil après son passage. Au regard, je dirais, des éléments que nous venons d'évoquer, on peut prendre en la mesure de la nature et de l'ampleur de l'action qui reposait sur les épaules des associations. Il était indispensable d'apporter un autre regard, une autre lecture à propos des malades du sida. Le sociologue Michael Pollack disait « Il existe une suprématie de l'opinion médicale sur ceux voulant utiliser la maladie à des fins idéologiques et morales. » Alors, rapidement, pour résumer ce que nous avons abordé précédemment, alors, je dis aide, mais aide et les autres associations, d'accord, vous m'en serez gré, je me suis tenu à aide. Je dis aide et les autres associations sont donc efforcées de reléguer dans les passés la figure d'un patient démuni et passif qui délègue aux médecins et chercheurs toute initiative concernant les soins et la recherche. D'accord ? L'action solidaire engagée envers les malades résidait avant tout dans un échange de connaissances et de savoir au sujet de la maladie. Quelle peut être l'évolution de la maladie ? Comment faire face à telle ou telle infection ? Comment avoir accès à un traitement ? Ou encore vers quel médecin m'orienter ? C'était ce type de questions qui émergeaient fréquemment dans les permanences des associations. Aide avait d'ailleurs, à la fin des années 80, ou je ne sais plus, 89-90, je ne sais plus précisément la date, avait créé un journal qui s'appelle Remède, où l'information et l'échange de connaissances entre malades occupaient une place centrale. Dans une édition de l'année 88, l'on trouve un dossier complet autour de la question « Comment jauger son médecin ?» C'est-à-dire, dans cet article, on peut obtenir les informations nécessaires pour détecter, à partir de l'analyse des réactions de son médecin, si celui-ci possède une connaissance de la pathologie elle-même, s'il adopte une attitude adaptée face à la douleur de son patient et s'il est possible de lui faire confiance. Et cet article a été élaboré
à partir des témoignages des bénévoles et des malades eux-mêmes. Donc là, on voit apparaître une des idées, je dirais, primordiales ayant cours durant cette période au sujet de la prise en charge du sida, et que je pourrais énoncer comme ça. C'est-à-dire, qui peut me comprendre, qui peut m'aider en dehors de celui qui souffre du même mal que moi ? Qui est en mesure de m'aider à interpréter mes symptômes, qui peut m'aider à les gérer ? D'accord ? Beaucoup de malades se posaient ce type de questions. Et donc, face au marasme thérapeutique de l'époque, il semblerait que la réponse était plutôt évidente et raisonnable. Et donc, AIDE a contribué, avec les autres associations, à développer un modèle, je dirais, de malade, le malade gestionnaire de sa maladie. Capacité acquise à partir de connaissances relevées auprès de ses congénères d'infortune. Alors évidemment, au sein de ces associations, et notamment de AIDE, le rapport de la médecine était très important, est un enjeu majeur, et AIDE élabore des mesures de santé publique au sujet de la prévention, mais il se pose la question si ces mesures peuvent se réaliser en se situant totalement en dehors du champ médical. Alors, après la défiance de Daniel Defer envers la médecine, le temps de la collaboration va arriver. AIDE estime en effet qu'il faut éviter une confrontation directe avec les institutions médicales et va essayer d'établir les conditions d'une collaboration. Alors, cette logique de collaboration va rapidement se traduire par la mise en place d'un comité scientifique, d'accord, au sein de l'association, et par l'établissement de relations avec certains médecins et scientifiques. Par exemple, il y a des liens qui ont été créés avec les cliniciens et les chercheurs du GFTS. GFTS, c'était le groupe français de travail sur le sida. C'était en fait le prolongement du groupe de travail qui avait été fait par Rosenbaum au tout début de l'épidémie. Alors, le GFTS donc, va contrôler la rigueur et la fiabilité des informations diffusées par AIDE, mais la collaboration ne va pas se faire à sens unique. C'est-à-dire que AIDE va participer avec les chercheurs, par exemple, à l'élaboration de protocoles d'investigation épidémiologique. L'association suit clairement la stratégie visant à maîtriser totalement les connaissances médicales et scientifiques relatives au virus. Mais elle va être aussi riche des savoirs apportés par les malades au quotidien et se trouvera en mesure d'appréhender leurs besoins spécifiques. Frédéric Edelman, que j'ai cité tout à l'heure, qui est un des fondateurs de AIDE, explique qu'il était nécessaire de passer du discours médical à un discours de compétences. La stratégie donc adoptée a permis à l'association AIDE d'intégrer certains services hospitaliers où elle a pu délivrer de l'information au sujet de l'épidémie, à des praticiens libéraux, à des infirmiers, à des travailleurs sociaux. Donc l'association utilise cette position pour faire valoir son discours propre sur le sida et pour se différencier du mode du discours médical. D'accord ? Aussi, cette dynamique, je dirais, va prendre toute sa valeur, et c'est un petit peu là ce qui différencie d'autres épidémies, c'est toute sa valeur et tout son sens au sujet de l'accès au traitement et de la participation de l'association à l'élaboration de protocoles de soins. Il faut quand même avoir à l'esprit que cette question de l'activisme thérapeutique, dans le cas qui nous intéresse, là, celui de AIDE, à ce sujet, est important, mais il faut avoir à l'esprit que cette forme d'action sera particulièrement, je dirais, soutenue et prolifique dès lors que se formera une structure interassociative, le TRT5, d'accord, qui est fondé en 92 et à laquelle AIDE prendra part, mais également ACT UP, ARCAD SIDA, Action Traitement, par exemple. Mais il me semble qu'il est possible d'appréhender ce mouvement primordial de l'activisme dès la genèse de l'association AIDE. Vous le voyez, donc, en 86, il y a un débat qui éclate autour de la question de la mise en place d'un traitement, l'AZT, ou zidovudine. Il s'agissait là du premier traitement proposé pour tenter de booster les défenses immunitaires des malades. Et l'AZT était une molécule du laboratoire Wellcome qui avait été élaborée pour traiter certains types de cancers, mais qui avaient été laissés là, sur les étagères du fait d'effets secondaires dévastateurs. On essaie d'utiliser cette molécule. En Amérique, aux États-Unis, il y a des essais thérapeutiques qui sont menés pendant 24 semaines auprès de patients américains, et ça montre une certaine efficacité. Donc la firme est autorisée par les instances décisionnaires de mettre ce produit sur le marché américain. C'est-à-dire qu'on est tellement dans l'urgence de ralentir le processus morbide de la maladie que les essais thérapeutiques ont été quelque peu écourtés et qu'on n'a pas vraiment de résultats totalement scientifiquement validés. Alors, la relation des médecins et des associations françaises après l'introduction de l'AZT sur le marché américain est plutôt contrastée. Mais chacun s'insurge contre un système qu'il juge obsolète au regard de la catastrophe sanitaire en cours. En 1988, un essai thérapeutique... Non, pardon, j'ai oublié une chose. L'AZT sera introduit au sein du milieu hospitalier dès 1987, mais pour les patients déjà dans un stade très avancé de la maladie. D'accord ? Et en 1988, on va mettre en place un essai thérapeutique qui est appelé l'essai Concorde, et qui est dans le but d'évaluer l'efficacité de l'AZT au long cours et d'estimer également son utilité dans la phase asymptomatique de la maladie. Et cette recherche va être placée sous l'égide de l'ANRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida, qui va en édicter les grands principes. Alors, l'agence va alors prôner la méthodologie des grands essais d'antiviraux qui constituent le standard de la recherche internationale. C'est-à-dire que l'expérimentation doit se dérouler en double aveugle avec randomisation et placebo. Pour être plus précis, le principe méthodologique de ces essais repose sur la division des patients en deux groupes qui sont tirés au sort aléatoirement. Au premier groupe, on administre la nouvelle molécule, dont il s'agit d'évaluer les effets. Au second groupe, on administre un traitement de référence qui a déjà été validé, mais en l'absence d'un tel traitement, comme c'est le cas pour le sida, les patients reçoivent un placebo ayant la même apparence que le produit testé. Alors, cette méthodologie va faire l'objet d'une opposition frontale de la part des associations. Le recours au placebo va être jugé inacceptable dans un contexte où la recherche constitue pour les patients un moyen, peut-être l'un des seuls moyens, d'accéder à des traitements potentiellement bénéfiques alors que leurs pronostics vitaux sont clairement engagés. Alors du coup, les associations vont se rapprocher de l'ANRS en demandant la mise en place de réunions d'information sur l'état de la recherche. Donc, AIDE, par exemple, va dénoncer la démarche clairement par l'intermédiaire de Daniel Defer, qui juge inacceptable le principe du double aveugle, qui prive le malade du droit fondamental d'être informé sur les traitements qui lui sont administrés et le réduit au statut d'objet de recherche. Aussi, en 1991, l'association adopte une charte des essais thérapeutiques comprenant une critique systématique des différents principes méthodologiques appliqués par l'ANRS. L'objectif, vous l'aurez compris, consiste à faire en sorte que la mise en œuvre d'essais thérapeutiques ne devait plus revenir uniquement aux spécialistes. Donc, en un mot, AIDE et les autres associations créées par la suite vont toutes combattre sur deux fronts, celui de l'expérimentation des nouvelles molécules et celui de la mise à disposition des médicaments. Alors, comment ça va se faire ? Donc, AIDE, notamment, eux et d'autres associations comme Arcade Sida, mettront en œuvre de multiples activités de lobbying via certains de leurs militants qui avaient intégré des groupes de travail de l'ANRS et ils parviendront à leur fin. Les malades et leurs représentants seront associés aux décisions les concernant. Chaque protocole d'essai sera mis à l'épreuve de la critique des associations. Et celles-ci, je dis en coup par coup, vont tenter d'assouplir les contraintes liées aux grands essais d'antiviraux. Alors, si je fais un grand bond dans l'histoire, c'est en 1996, ça a été super important à l'arrivée des antiprotéases pour les trithérapies, où vraiment, ils ont permis d'accélérer l'accès aux antiprotéases. Alors donc, en un mot, les mises sur le marché de ces médicaments seront établies à partir de la concertation des associations, du monde médical, de l'administration et des labos pharmaceutiques. On peut dire qu'il y a un véritable travail de partenariat où le malade a toute sa place qui a pu être établi. Alors, cette lutte et ces victoires représentent certainement un moment clé de l'histoire tant de la cause homosexuelle que du monde médical. Les relations médecin-patient ont été transformées durablement à partir notamment de l'action des associations de lutte. En agissant en amont de la maladie, à partir notamment de l'action des associations de lutte, mais en agissant également en aval de la maladie, à partir de propositions d'accompagnement spécifiques pour la population, il semblerait que le travail des associations ait permis de traiter l'urgence sanitaire qui se présentait à elles, tout en préservant la dignité des malades dans leur relation au monde médical, mais également au sein de la société plus globale. Le travail de mémoire que je viens de réaliser devant vous me paraît nécessaire à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il me semble important de rappeler ces éléments aux nouvelles générations dans un souci préventif, parce qu'il me semble que l'histoire n'est pas totalement terminée. Par ailleurs, nous l'avons vu, l'apparition du sida a amené la communauté homosexuelle dans un devenir très singulier. Si je prenais ça sur un plan conceptuel, le sida peut être envisagé comme impliquant une machinerie complexe. Machinerie au sens où l'entend Gilles Deleuze, le philosophe Gilles Deleuze, c'est-à-dire une machinerie faisant intervenir des êtres spécifiques, des professionnels, des objets, des groupes. Et le travail fourni par ces différents rouages au sein de la société ou dans l'existence même des individus a été l'origine d'un véritable processus de métamorphose. La communauté homosexuelle atteinte par l'épidémie du sida a été amenée à modifier ses relations à la société, au monde médical ou encore à la famille. Comment effectivement ne pas avouer son homosexualité dès lors que la maladie pointe, d'accord, que la maladie est là. Il a transformé également le rapport du sujet homosexuel à propos de sa propre sexualité, c'est-à-dire en étant l'origine de nouvelles pratiques sexuelles, l'utilisation du préservatif, le safe sex ou encore les jack-off parties. Enfin, il y a plein de choses qui sont créées autour de ça. Et ce processus, je dirais, radical de métamorphose, porté par et inscrit dans un collectif, a eu des impacts politiques importants. Il ne faut pas oublier que les débats concernant la nécessité de mettre en place un contrat civil pour les couples homosexuels, qui deviendra le PACS, ça a vu le jour quand même suite à l'hécatombe qui a touché la communauté dans ces années 80. C'est-à-dire, il faut avoir en mémoire que du début de l'épidémie jusqu'au milieu des années 95, à peu près, il y a eu plus de 30 000 décès en France des suites du sida. Aussi, il me paraît pertinent de se poser la question de savoir quelle est la place particulière qu'occupe aujourd'hui le sida au sein de la population homosexuelle. Le processus de métamorphose que nous avons mis en avant est-il toujours en marche? Quel rapport entretient la population homosexuelle avec le virus? Celui-ci n'a pas été éradiqué et continue d'être actif, notamment dans la sexualité des homosexuels et dans leur rapport à l'existence. Alors, on va aller plus loin, je trouve, et c'est important aussi de revenir rapidement sur l'évolution de la pathologie elle-même. C'est-à-dire, sur le plan médical, depuis 1996, c'est-à-dire depuis l'arrivée des trithérapies, la situation a considérablement évolué. L'arrivée de la trithérapie a progressivement modifié le statut de cette maladie. Le sida s'est progressivement mué en maladie chronique. Et ce passage d'une maladie mortelle en une maladie chronique a amené une chute des moyens financiers, un désengagement progressif du grand public et un changement de perspective pour le corps médical. Au niveau associatif, nous avons assisté à une nouvelle dynamique. Alors, ce secteur a été effectivement atteint de plein fouet par le recul des subventions financières et la mobilisation a été de moins en moins importante. Toutefois, il y a une sociologue qui a beaucoup travaillé à ce sujet, qui s'appelle Janine Barbeau, Elle a une thèse très très bien qui s'appelle « Les malades en mouvement ». Elle explique justement que l'activisme militant a adopté de nouvelles perspectives. Elle explique que les associations sont devenues des experts de l'observance. C'est-à-dire que celles-ci sont sollicitées comme expertes des comportements vis-à-vis des médicaments. Il est effectivement noté que certains patients ne sont pas toujours très observants vis-à-vis de leur traitement. Les entorses aux prescriptions médicales peuvent s'expliquer par le fait que l'efficacité des traitements étant plus importante qu'autrefois, les malades peuvent baisser leur vigilance, entre guillemets. Par ailleurs, l'auteur met en avant l'importance du travail associatif dans le cadre de l'appréhension des effets secondaires des traitements. Elle cite notamment Ed, qui sur ce point se montre très critique envers le monde médical. L'association dénonce le fait que, après le tournant thérapeutique du milieu des années 90, de nombreux médecins se seraient repliés sur leur savoir médico-centré. Certains d'entre eux se montreraient incapables d'écouter réellement les plaintes de leurs patients et de faire remonter vers les instances médico-administratives une information pertinente concernant l'apparition d'effets secondaires importants. Donc, on peut se rendre compte que les associations maintiennent un certain nombre d'actions importantes, mais les secteurs sur lesquels elles interviennent semblent avant tout servir de relais au monde médical. Pour être plus précis, il semblerait que le patient ne soit plus totalement considéré comme un partenaire concerné par le corps médical, mais davantage comme un objet de recherche. Le médecin va dorénavant acquérir ses connaissances en se référant aux laboratoires de recherche, aux revues spécialisées. Comme le dit justement Toby Nathan, le réseau médical n'est plus dorénavant obligé par l'intérêt des malades. Il n'est réellement intéressé que par les êtres qui les unissent, les virus, la charge virale, les antiviraux. Le médecin est donc redevenu davantage technicien. Et le corps médical donne le sentiment d'être plutôt refermé sur lui-même, considérant qu'il avait moins besoin, dans sa pratique, de l'expertise des malades. D'autre part, les malades eux-mêmes, ou plus précisément les porteurs du virus, se sentent moins concernés par la lutte qui paraît, surtout pour les plus jeunes, hors contexte et plutôt désuète. À cet endroit, je veux quand même préciser que mon propos n'est absolument pas de minimiser le rôle des associations ni les progrès que celles-ci ont permis d'apporter dans le champ du traitement, de la prévention, de la prise en charge, d'accord, des malades. Bien au contraire, elles ont été absolument essentielles. Cependant, il me semble que le processus n'est pas totalement achevé. Et que la lutte que nous avons décrite a achoppé à un moment de l'histoire de l'épidémie et pour différentes raisons. Tout d'abord, on l'a vu, la mutation du sida en une forme de maladie chronique a évidemment donné une autre tournure au contexte relatif à la prise en charge des sujets et a profondément altéré les enjeux associatifs. Mais, selon moi, l'un des points d'achoppement réside certainement dans un problème d'appréciation ou d'angle d'appréciation de la situation des porteurs du virus de la part des associations. Pour des raisons fort compréhensibles, hein, les associations, elles ont mis toute leur force dans la lutte pour obtenir des traitements efficaces, mais au fil du temps, elles semblent avoir pris ce parti médical de manière univoque, pour cette cause strictement médicale. De fait, elles semblent avoir occulté une certaine part de la réalité des virus, des porteurs du virus, notamment autour de la question de la sexualité, qu'elles n'ont pas su, à mon sens, véritablement analyser. C'est-à-dire que les associations ne sont pas vraiment parvenues à penser certains changements au sein de la communauté homosexuelle. Je parle ici plus précisément de la question du relâchement de la protection des conduites sexuelles. Ce qu'il est nécessaire de savoir, c'est que dans la communauté homosexuelle est toujours frappée de manière importante par le virus du sida. Depuis 2007, sur le plan global, il y a des chiffres, les chiffres de la contamination demeurent stables. Selon les chiffres de l'Institut national de veille sanitaire, le nombre de contaminations détectées serait en moyenne de 6500 nouveaux cas par an. En France. Hein. Cependant, le seul mode de contamination pour lequel les nouveaux diagnostics de VIH ne diminuent pas concerne les homosexuels hommes. Pire encore, cette part augmenterait de manière significative. C'est ça. Ouais. En 2007, on avait une proportion à peu près de 50% des nouveaux cas donc, qui étaient des hommes, donc homosexuels, et aujourd'hui, on est carrément à 50%. Donc, les épidémiologistes mettent effectivement en avant l'abandon progressif du préservatif pour expliquer cet état de fait, mais ceci s'attend à devenir la norme. C'est même c'est un caractère, c'est un facteur, c'est vraiment assez massif, quoi. Alors, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que les sciences sociales ont été sollicitées pour tenter d'appréhender ce phénomène à ce sujet. On peut citer une étude menée par un psychologue, chercheur à l'université Rennes 2, qui s'appelle Pierre Bonny. Alors, j'ai pris cet exemple, cette étude ne résume absolument pas l'ensemble des recherches menées sur ce sujet, sur le domaine que nous évoquons, mais elle me semble plutôt paradigmatique, car elle a été financée notamment par Aide et a pu servir de grille explicative au sein de l'association pour tenter d'appréhender le phénomène. Alors ce chercheur, pour être synthétique, il a essayé de décrypter certains processus inconscients à l'œuvre chez les sujets ayant ce type de pratique, un risque, afin de promouvoir de nouvelles stratégies de prévention. Or, si on regarde un peu plus près ses conclusions, celles-ci s'articulent autour de critères pour le moins pathologisants, je dirais, pour la communauté homosexuelle. En effet, le chercheur, dans une dimension clairement psychanalytique, réaffirme la force de la pulsion de mort chez les gays, leur propension à la compulsion sexuelle ou encore une certaine appétence pour les conduites ordaliques. Alors, si on regarde ça comme ça, on peut comprendre que cela laisse à penser que cette population présenterait une caractéristique d'une certaine vulnérabilité pathologique, ce qui peut paraître un petit peu quand même pour le moins contestable au vu du pourcentage de plus en plus élevé de gays qui adoptent ce type de pratique. Ça veut dire qu'il y a 50% des gays qui auraient des vulnérabilités pathologiques, ce qui interroge. Nous le savons, les associations de lutte contre le sida se sont regroupées principalement autour de la question des traitements et celle de la prise en charge médicale. Le collectif TRT5, dont j'ai parlé tout à l'heure, en est l'incarnation même. De fait, certains pans de la réalité des porteurs de virus n'ont pas été vraiment appréhendés. Certains ont même pu faire l'objet de rejets massifs ou de disqualifications de la part des associations. Alors on a parlé d'un phénomène de relapse, c'est-à-dire de relâchement, c'est-à-dire le relapse qui était l'abandon progressif du préservatif. Et ce phénomène tend aujourd'hui, je l'ai dit, à se généraliser au sein de la communauté gay. Et donc, il y a eu des ruptures nettes qui se sont opérées entre les associations et les sujets homosexuels eux-mêmes, tant ceux-ci ont éprouvé le sentiment d'être accusés d'irresponsabilité ou carrément d'être des criminels en puissance. Les réactions virulentes des militants associatifs des premiers jours est compréhensible, car ces nouvelles pratiques banalisaient totalement la cause pour laquelle ils se battaient depuis tant d'années. Et cela venait, je trouve, moi aussi, à nier l'histoire elle-même et la mémoire des morts victimes du sida. Alors cette scission entre les associations et la communauté aurait pu peut-être être évitée ou différée si les associations avaient adopté un autre angle d'analyse. Les associations auraient pu effectivement envisager la situation différemment à l'aune du virus lui-même. Virus que l'on considérait comme un être dans une dimension ethnopsychiatrique. Je m'explique. La discipline la discipline ethnopsychiatrique, la méthodologie voilà, à laquelle j'adhère, à laquelle je travaille, je veux dire, la discipline a élaboré de nombreuses connaissances au sujet de la fonctionnalité de la notion d'être. Les migrants que nous avons rencontrés dans le cadre ethnopsychiatrique ont pu démontrer aux cliniciens à quel point leur monde était riche et peuplé. Plus précisément, ce monde est peuplé par des êtres visibles et des êtres invisibles, marquant une frontière ténue et poreuse entre deux mondes distincts. Et dans la conceptualisation de la discipline, Toby Nathan a pu livrer quelques-uns des attributs de ces êtres, de manière rapide. Le professeur Nathan, je crois que je vous l'ai écrit sur le slide, il avance l'idée que les êtres doivent être considérés comme des entités sans corps, dotées d'une intentionnalité propre. Il précise également que ces êtres entretiennent des modalités relationnelles avec des humains basées sur le marchandage ou la négociation. Enfin, autre caractéristique essentielle, ces êtres sont à l'origine de constitutions de groupes pouvant devenir de véritables forces sociales. Le virus, selon moi, le virus du sida, peut être envisagé comme un être, au sens là où Toby Nathan l'entend. C'est vrai qu'à l'apparition du virus, des professionnels ont cherché à identifier ce que cette entité réclame, ce qu'elle exige des humains afin de traiter les effets de son surgissement dans l'existence. Ils ont également cherché à inventer des mesures de précaution auxquelles les humains doivent se soumettre du fait de devoir désormais compter avec elles. En un mot, le virus du sida a contraint tant les professionnels que les malades d'élaborer de nouvelles modalités relationnelles. Il a permis donc de redéfinir l'ordonnancement de ces mondes, et en cela, on peut dire que l'être du virus du sida est doté d'intention et contraint à la négociation. Et par ailleurs, il a été à l'origine des constitutions de groupes agissant comme des forces sociales incontournables, à savoir les associations que j'ai largement évoquées devant vous aujourd'hui. Aussi, si les associations s'étaient regroupées autour de l'être du virus lui-même, les perspectives d'évolution auraient été différentes. En abordant de front la question de l'intentionnalité du virus, de ce à quoi il oblige les porteurs eux-mêmes, c'est-à-dire ce qu'il exige des humains dans leur vie quotidienne, dans leur comportement, dans leur rapport aux autres, ou encore dans leur sexualité, en laissant ouvertes ces questions dans une démarche de connaissance et de solutions adaptées aux porteurs du virus, en veillant à suivre le mouvement de l'évolution de la situation des malades, tant sur le plan de la santé que sur celui de leur expérience propre, la dynamique initiée dans les années 80 aurait pu être renouvelée. Par exemple, la question de la sexualité et du relâchement des comportements de protection aurait pu être abordée d'une manière différente, à l'opposé de celle visant à condamner les sujets adoptant cette attitude qui implique une stigmatisation au sein même de la communauté gay. Prendre ce parti aurait certainement apporté une liberté de penser, s'extirpant ainsi de toute considération moralisatrice ou psychologisante. Si on prend effectivement le parti du virus, non pour lui donner raison, mais pour tenter de comprendre ce qu'il nous donne à penser, ce qu'il apporte en termes de liberté au sujet de l'existence de chacun, dès lors que les sujets sont parvenus à gérer une relation avec lui, c'est-à-dire en l'évitant ou en supportant sa présence, en un mot, en tentant d'appréhender la nature des relations que l'on entretient avec cet être. En adoptant une telle démarche, il aurait peut-être été possible, par un phénomène de retour, de constituer de nouveaux collectifs ou, plus simplement, d'alimenter la pensée et la pratique de ceux déjà existants, c'est-à-dire de redonner un élan au mouvement initié, de le rendre vivant et inventif. En conclusion, je voudrais donc dire que, c'est une proposition que je fais, la démarche ethnopsychiatrique permettrait peut-être de rendre compte de la singularité des savoirs et des pratiques liées à la question du sida. La notion d'être pourrait apporter une autre grille de lecture à ces problématiques, en tentant d'identifier la nature de cet être qui semble s'exprimer à travers les pratiques et les modalités relationnelles
de ceux qui sont touchés, en tentant d'appréhender ce qu'il exige, les exigences vis-à-vis des individus, c'est-à-dire le culte qu'il réclame. Peut-être serions-nous en mesure de formuler des hypothèses qui respecteraient les sujets et donneraient de nouvelles pistes de réflexion quant au vécu des porteurs du virus. Pour aller encore plus loin, en pousser encore le raisonnement un peu plus, il me semble, c'est à nouveau une hypothèse et une proposition que je fais, il me semble qu'il serait possible d'avancer que le dispositif relatif au SIDA lui-même donne le sentiment de relever d'un véritable système sorcier. C'est-à-dire, c'est un système qui va confronter un être qui attaque, qui exige, donc il va confronter donc cet être, des victimes, des professionnels spécialistes de la question, et enfin des forces sociales incarnées par les groupes associatifs. Et ce parallèle me paraît d'autant plus intéressant que la sorcellerie, enfin, oui, semble pertinente pour décrire aussi le vécu de la maladie du sida. Et le romancier que vous voyez, le romancier Hervé Guibert, là, à la fin de sa vie, il décrivait là, dans son ouvrage là, à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, il décrivait cette expérience avec beaucoup de justesse, lui-même qui était atteint par ce mal insidieux et qui vivait dans son corps la lourde déchéance de la maladie. Guibert, et j'en terminerai là, expliquait. Le sida est une maladie de sorcier et d'envoûteur. Le sida est un état de faiblesse et d'abandon qui ouvre la cage de la bête qu'on avait en soi, à qui je suis contraint de donner plein pouvoir pour qu'elle me dévore, à qui je laisse se faire sur mon corps vivant ce qu'elle s'apprêtait à faire sur mon cadavre pour le désintégrer. Les champignons de la pneumocystose, qui sont pour les poumons et pour le souffle des boas constricteurs, et ceux de la toxoplasmose qui ruinent le cerveau, sont présents à l'intérieur de chaque homme. Simplement, l'équilibre de son système immunitaire les empêche d'avoir droit de cité, alors que le sida donne le feu, ouvre les vannes de la destruction. Je vous remercie pour votre attention.
Oui, si l'on part du principe que le sida, c'est un être doué d'intentionnalité, un être qui aurait des intentionnalités propres, est-ce qu'on peut dire que l'une de ces intentionnalités, c'est d'échapper à toute forme de contrôle, d'encadrement, alors que ce soit par la sphère médicale ou pour la société? Déjà, est-ce qu'on peut dire ça? Parce qu'on a constaté que c'est lorsque la pratique du préservatif s'est étendu complètement, c'est à ce moment-là que la pratique du barbac est apparue. Donc, est-ce que ça rentre dans cette pensée-là, et est-ce qu'il y a d'autres pratiques qui pourraient confirmer cette hypothèse-là?
Oui. Mais tu évoques la question du... Oui, tu parles de barbac. Je ne sais pas, je pense pas que... Peut-être que tout le monde n'est pas au fait de cette terminologie. Le barbac, ça décrit en fait des groupes qui se sont constitués au début des années 2000 autour justement de l'absence de relations avec des préservatifs. Mais c'était des groupes assez organisés, c'est-à-dire qui se regroupaient, qui se trouvaient par le biais d'Internet, ce cher outil, il y a une espèce de collectif qui revendiquait ce droit de pouvoir faire l'amour sans préservatif, et donc qui se regroupaient entre eux pour avoir ce type de pratique. Donc il y a vraiment un vrai collectif là qui s'est créé pour c'était une condition sine qua non de l'absence du préservatif. Et donc là, c'est ce que j'expliquais un peu là tout à l'heure par rapport aux recherches qui ont été faites. Là, on a tout de suite dit il y a danger, il y a cette propension à... Même Pierre Bonny parlait de suicide différé. Donc il y a eu effectivement, ça a été vu sous l'œil effectivement de la psychologie. Et il y a d'autres maintenant, et progressivement, c'est embêtant parce que je trouve que c'est déjà un problème déjà presque ancien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça devient presque une norme au sein de la communauté homosexuelle. Et il y a plein d'autres groupes
Et la sexualité est toujours sous le regard, j'ai l'impression qu'elle est sous la loupe des chercheurs, sous la loupe des psychologues, sous la loupe des médecins. Par exemple, actuellement, ça va tellement vite, déjà, c'est qu'il y a une nouvelle molécule qui vient de sortir, enfin, qui vient de sortir, ça fait un petit moment, c'est ce qu'on appelle le Truvada. Le Truvada, c'est une molécule qui est utilisée pour les malades du sida, mais également que l'on peut utiliser en pré-exposition. C'est-à-dire que des sujets peuvent prendre cette molécule, d'accord, en pré-exposition, c'est-à-dire je vais avoir des rapports non protégés, d'accord, je préfère avoir des rapports non protégés, donc je vais prendre le Truvada, et le Truvada, effectivement, a une efficacité à pratiquement, je crois, 85% de risque en moins de choper le sida, en sachant que le préservatif, lui, il y a un risque de 86%. Donc, du coup, il y a effectivement cette nouvelle molécule qui est apparue, mais qui a fait le rejet, notamment aux États-Unis, qui a fait le rejet l'objet de rejets massifs de la part des associations de lutte homosexuelle qui disaient si on commence à faire ainsi, ça veut dire qu'ils vont abandonner le préservatif et donc ils vont peut-être potentiellement oublier leur médicament et donc ils vont être infectés. D'accord ? Il y avait ça. Et derrière, il s'est créé un autre collectif qui s'appelle, alors excusez-moi mon anglais, le Truvada War, comme ça on dit, c'est-à-dire en fait, ni plus ni moins, les putes à Truvada. C'est-à-dire qu'ils ont carrément créé un hashtag sous Twitter où un collectif s'est créé, dire revendiquant le droit d'avoir cette sexualité et d'arrêter la stigmatisation de leur sexualité. Et donc ils réclament, ils ont des revendications, ils demandent plutôt que d'avoir juste deux médicaments dans la semaine, d'en avoir un par jour. Évidemment, ça a un coût derrière, donc il y a des choses comme ça. Donc effectivement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'histoire ne me semblait pas tout à fait finie, parce que à chaque fois qu'on avance, à chaque fois, la technologie et la médecine apportent de nouvelles solutions pour tenter d'endiguer ça et pour tenter de retrouver une sexualité dite « normale », entre guillemets. Mais à chaque fois, il y a à la fois les médecins, c'est encadré par les médecins et encadré également par mes amis psy, c'est-à-dire qu'ils vont regarder, juger et apporter une lecture à chaque fois plutôt disqualifiante, voire discriminante en tout cas, qui n'amène pas, je trouve, d'idées neuves. Quoi.
Est-ce que la relâche des pratiques protégées, on n'observe pas une explosion combinatoire, en fait, ça devrait, comme toute épidémie, est-ce que ça vient du fait qu'une personne atteinte du sida qui est traitée, le traitement est tellement efficace qu'elle devient moins contaminante. Et donc ça devient quelque chose de beaucoup plus sournois. Et du fait, incite encore plus à des pratiques non protégées.
Tout à fait. Non, mais tout à fait. Vous avez entièrement raison. Donc, c'est que je pense que c'est assez compliqué de. Je pense qu'on met un petit peu toujours tendance à généraliser tout, à mettre tout dans le même moule. C'est-à-dire que je pense qu'il y a. Plein d'identités sérologiques différentes. C'est-à-dire que un sujet qui est suivi pour le sida, donc, et qui est stabilisé, c'est-à-dire qu'il y a la charge virale est indétectable, et c'est reconnu scientifiquement qu'il n'est potentiellement plus contaminant, enfin très peu. D'accord ? Il y a un risque très, 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 très ténu de ça. Donc effectivement, les sujets les plus dangereux, entre guillemets, sont ceux qui ne sont pas détectés, d'accord, qui ne se pensent séronégatifs alors qu'ils sont porteurs du virus. C'est ceux-là qui sont les plus potentiellement contaminants. Et effectivement, le relâchement du préservatif, le relâchement de ce genre de protection vient effectivement du fait de dire « Ok, voilà, le sujet va dire « Je suis séropositif, mais je suis totalement stabilisé, je ne suis plus contaminant. Pourquoi continuer à utiliser le préservatif ?» D'accord, ça c'est évident, à mon sens. Mais malgré tout, il y a toujours cette obligation, il y a une espèce de truc, voilà, une espèce d'obligation de dire le préservatif est indispensable parce qu'on a toujours peur,
les chercheurs, les médecins ont toujours peur également de dire il faut attention aux autres IST, attention aux autres infections sexuellement transmissibles, parce que c'est pas parce que vous avez le Truvada, c'est pas parce que vous n'êtes pas contaminant que vous ne pouvez pas choper la syphilis ou que vous ne pouvez pas choper une autre pathologie qui refait vraiment surface de manière assez massive et assez inquiétante, l'hépatite C par exemple. D'accord ? Donc effectivement, je trouve qu'il y a plein de statuts sérologiques différents et qu'on pense tous à l'eau, je trouve qu'on ne différencie pas suffisamment, on pense tous tout de la même manière, quoi. En plus, je pense qu'au niveau de ces conflits, une remarque peut-être un petit peu basique, hein, je trouve qu'il y a aussi un conflit générationnel, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez pas, on n'arrivera pas, je pense, à mettre d'accord des militants de la première heure avec des gens ayant connu l'hécatombe des années 80-90 comme j'ai pu la connaître, avec des jeunes qui sont arrivés après 96, c'est-à-dire qui disent que c'est une maladie chronique tout à fait gérable, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment différencier les choses et de se pencher davantage sur l'avenir, quoi.
Merci. Alors, je voulais revenir sur ta proposition sur l'être virus. Si j'ai bien compris, donc l'idée c'est, et si on partait de ce que veut le virus, d'une espèce de définition du virus, enfin pas de définition, de conception, de compréhension du fonctionnement du virus, ce qu'il exige ou ce qu'il oblige ou contraint à faire, ce qu'il veut pour se relier à lui d'une autre manière, d'une nouvelle manière, peut-être plus adaptée, plus combative au fond. Mais alors du coup, j'ai une question. Si on suit ta proposition, est-ce qu'on court pas un risque de voir disparaître la communauté homosexuelle? Je veux dire par là que tu as beaucoup utilisé le terme de communauté homosexuelle par rapport à cette histoire dramatique où il y a eu vraiment, tu nous as rappelé l'évolution de la communauté homosexuelle en France, en tout cas sociologiquement, politiquement, dans son combat. Maintenant, il n'y a pas que les homosexuels, évidemment, qui sont touchés par le virus du sida. Et donc, voilà, ma question, c'est est-ce que si on part du virus et non pas d'un groupe concerné par une question, est-ce qu'on risque pas de voir le groupe en question disparaître?
Merci pour la question, Nathalie. Ben, disons que je ne sais pas si j'entends bien ce que tu dis et je suis assez d'accord, parce que si on pousse la logique un peu plus loin, moi il me semble, je ne sais pas si je peux dire ça aujourd'hui, il me semble que la communauté homosexuelle telle qu'elle est aujourd'hui s'est constituée autour du virus du sida. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle s'est constituée, elle a eu une... notamment dans son institutionnalisation au rapport à la société. C'est-à-dire qu'à partir du sida, s'est posé des questions qui n'avaient pas forcément émergé jusqu'alors. Au départ, on était dans une dimension de reconnaissance d'une certaine légitimité, de reconnaissance d'un caractère illégal, de l'absence. Et petit à petit, se sont posé la question, c'est quoi le rapport à la société homosexuelle à la mort? C'est quoi le rapport au couple? C'est quoi le rapport... Et tout ça, ça a amené justement le Pax, le mariage gay, Pax pour tous, pardon, ça a amené toutes ces choses-là. Et donc, effectivement, c'est à partir de ça que c'est constitué. Moi, j'irais aussi loin que toi, ça a permis de constituer la communauté homosexuelle telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, effectivement, peut-être, parce que si on prend effectivement le biais de l'être lui-même, peut-être que la communauté homosexuelle disparaîtrait, mais est-ce que c'est vraiment un mal? Je veux dire, peut-être que ça serait bien, j'ai lu ça ailleurs, de dire que ça serait bien à un moment donné que la question de l'homosexualité ne soit plus qu'un fait, d'accord, et ne soit plus forcément une identité. Donc oui, je trouve que c'est... Je ne sais pas si je réponds. Oui, Nathalie, d'accord.
Oui, alors j'aimerais savoir si j'ai bien compris ta pensée. Alors, est-ce qu'on peut dire que le sida a justement permis d'asseoir l'identité homosexuelle en l'inscrivant justement au-delà d'un caractère qui était au départ plutôt festif et que ça a contraint, on va dire, dans le cadre d'une lutte, d'un combat, d'un rapport de force à justement penser l'homosexualité dans des sphères peut-être plus lourdes, plus existentielles comme... comme justement le rapport à la mort, le rapport au deuil, le rapport à la douleur, à la maladie, donc, et donc d'étendre cette identité, d'étendre dans des sphères plus larges de la société aussi. Est-ce qu'on pourrait dire des choses comme ça?
C'est ce que je viens de dire, non? Non. Oui, oui, c'est ce que je viens de dire. Non. Et même, je veux dire, c'est ça qui m'a intéressé, c'est peut-être ça que j'ai choisi Aide aussi comme vecteur, d'accord, d'explication, parce que je pense, c'est ça qui m'a intéressé chez Daniel Defer, notamment, c'est de dire, je le répète comme je l'ai dit pour la question précédente, dire, il disait, il faut absolument, ça va nous amener à repenser la donne par rapport à la population homosexuelle. Il va falloir se saisir de ces questions pour institutionnaliser nos rapports à la société. Et effectivement, je veux dire, je ne sais pas du tout ce qui serait advenu de la communauté s'il n'y avait pas eu SIDA. Est-ce que ces questions auraient été aussi prégnantes, auraient été aussi, qui ont nécessité une réponse politique, une réponse sociale, qui ont nécessité tous ces types de réponses? Je ne sais pas ce qui serait advenu si SIDA n'était pas là. Bon, ça aurait peut-être été mieux qu'il ne soit pas là, mais en tout cas, il a produit quelque chose, quoi, ça c'est sûr. C'est ça que tu veux dire? Merci.